Don Krishna, gut ist das so.
Ici, il a parlé de la perfection d'en haut et la perfection d'en bas. Je n'ai pas très bien compris.
La perfection d'en haut, c'est la perfection spirituelle. C'est l'union intégrale avec le divin, l'identification avec le divin, la libération de toutes les limitations du monde inférieur. Ça, c'est la perfection spirituelle. C'est la perfection d'un yoga tout à fait indépendant du corps et du monde physique, et qui, dans l'ancien temps, consistait d'abord à rejeter le corps et la vie physique pour n'avoir plus de relation qu'avec le monde supérieur et finalement le divin. Ça, c'est la perfection d'en haut. Et la perfection d'en bas, c'est arriver à faire à l'être humain dans sa forme actuelle et dans son corps, dans sa relation avec toutes les choses terrestres, le maximum de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire au point de vue de la production, tous les grands génies qui ont les génies artistiques, les génies littéraires, les génies d'organisation, les grands gouvernants, ceux qui ont amené les capacités physiques à leur maximum, le développement humain jusqu'aux limites de ses possibilités. Et par exemple, n'est-ce pas, tous ceux qui ont une maîtrise totale de leur corps et qui arrivent à faire des choses prodigieuses, comme on en a vu par exemple durant la guerre pour les aviateurs. Et ils ont fait faire à leur corps des choses qui, à première vue, semblent tout à fait impossibles. Ils ont obtenu de lui une endurance, une vigueur, une habileté, un pouvoir qui était presque impensable. Et à tous les points de vue, au point de vue de la force physique, au point de vue de la réalisation intellectuelle, au point de vue des qualités physiques, d'énergie, de courage, de désintéressement, de bonté, de charité, toutes les qualités, n'est-ce pas, humaines, poussées à leur maximum. Ça, c'est la perfection d'en bas. La perfection d'en haut est spirituelle et extra-humaine. La perfection d'en bas, c'est la perfection humaine, poussé à son maximum, et qui peut être tout à fait indépendante de toute vie spirituelle, toute aspiration spirituelle. on peut être un génie sans avoir aucune aspiration spirituelle. On peut avoir toutes les qualités morales les plus extraordinaires sans avoir aucune vie spirituelle. Et même généralement, ceux qui ont un très grand pouvoir de réalisation humaine sont satisfaits, plus ou moins satisfaits de leurs conditions. Ils ont l'impression d'une qu'ils se suffisent à eux-mêmes, qu'ils portent en eux la source de leur réalisation et de leur joie. Et il est généralement très difficile de leur faire comprendre et sentir qu'ils ne sont pas les créateurs de leur propre création, quelle qu'elle soit. La plupart d'entre eux, excepté de très rares exceptions, si on leur disait « Ce n'est pas vous qui avez généré cette œuvre que vous accomplissez, c'est une force qui vous est supérieure, et vous n'êtes que son instrument », ils la trouveraient très mauvaise, et ils vous envoient promener. Qui fait que c'est vraiment deux perfections qui vont comme ça, en divergeant, dans la vie ordinaire. On disait dans l'ancien yoga, on disait que la première condition pour faire le yoga, c'est d'être dégoûté de la vie. Mais ceux qui ont réalisé cette perfection humaine, ils sont très rarement dégoûtés de la vie, à moins qu'ils n'aient rencontré des difficultés personnelles comme l'ingratitude de ceux qui les entouraient ou l'incompréhension de leur génie qui n'était pas suffisamment apprécié. Alors ça les dégoûte. Mais autrement, tant qu'ils sont dans la période de succès et de création, ils sont parfaitement satisfaits. Alors comme ils sont satisfaits, surtout satisfaits d'eux-mêmes, ils n'ont aucun besoin de rechercher autre chose. Ce n'est pas essentiellement vrai. Mais c'est généralement comme ça que ça se passe. Et à moins que il n'y ait dans ce génie une âme parfaitement consciente d'elle-même et qui est venu pour accomplir une œuvre précise sur la terre, il peut très bien naître, se développer et mourir sans savoir qu'il y a autre chose qu'une vie terrestre. Et c'est surtout ça, ne pas ce sentiment d'être arrivé à un maximum de réalisation qui donne une satisfaction vous empêchant d'avoir besoin d'autre chose. S'ils ont une âme pleinement consciente d'elle-même, comme je dis, est pleinement consciente de sa raison d'être dans le monde physique, il peut y avoir une vague impression que tout ça est assez creux, que toutes ces réalisations sont un peu trop superficielles et qu'il y manque quelque chose d'autre. Mais ça, ce sont les prédestinés qui ont ça. Et au fond, dans l'ensemble de l'humanité, ils ne sont pas très nombreux. Il n'y a que ces prédestinés qui peuvent joindre ces deux perfections et réaliser quelque chose d'intégral. C'est assez rare. Les grandes sommités spirituelles ont très rarement été des grands réalisateurs dans le monde physique. C'est arrivé, mais c'est très rare. Il n'y a que ceux qui sont des incarnations conscientes du divin qui, naturellement, portaient en eux la possibilité des deux perfections. Mais c'est exceptionnel. Les êtres qui ont eu une vie spirituelle, une grande réalisation spirituelle ont pu avoir à certaines minutes exceptionnelles une capacité de réalisation extérieure, elle aussi exceptionnelle. Mais c'était intermittent et jamais avec l'intégralité, la totalité, la perfection de ceux qui se sont concentrés sur la réalisation matérielle. Et c'est pour ça que pour les gens qui ne vivent que dans une conscience extérieure, pour qui la vie terrestre matérielle est tout ce qui existe vraiment, concret, tangible, perceptible à tous. Pour cela, ils ont toujours l'impression que la vie spirituelle est quelque chose de fumeux, presque de médiocre au point de vue matériel. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup en fait, un certain nombre de gens qui avaient voulu démontrer que les pouvoirs spirituels donnent une grande capacité de réalisation extérieure et qui avaient essayé par exemple dans des états, des conditions spirituelles exceptionnelles de faire de la peinture, de faire de la musique, d'écrire de la poésie. Eh bien, tout ce qu'ils produisaient était tout à fait de second temps. et ne pouvait pas se comparer à la production des grands génies ayant maîtrisé la nature matérielle. Ce qui donnait beau jeu aux matérialistes pour dire, vous voyez, votre prétendu pouvoir n'est rien du tout. Mais c'était parce qu'extérieurement, ils étaient des hommes ordinaires. Parce que le pouvoir spirituel le plus grand, s'il entre dans une matière qui n'est pas éduquée, bien le résultat sera très supérieur à ce que cet individu aurait pu faire dans son état ordinaire, mais très inférieur à ce que peut faire un génie qui a maîtrisé la matière. Ça, c'est ce, je pense que c'est une des choses que Shri Aurobindo va expliquer pour dire pourquoi il est nécessaire de donner à l'être physique extérieur le plein développement, la capacité de maîtriser la matière directement. Alors, vous mettez à la disposition de l'esprit un instrument qui est capable de le manifester. Autrement, oui, j'ai connu plusieurs personnes qui, dans leur état ordinaire, ne pouvaient pas écrire trois lignes sans faire des fautes. Non seulement d'orthographe, mais de français, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il était incapable d'exprimer une pensée clairement. Eh bien, quand ils étaient dans leur moment d'inspiration spirituelle, ils écrivaient de fort belles choses. Mais ces fort belles choses n'étaient tout de même pas aussi belles que les choses des plus grands écrivains. Elle paraissait remarquable en comparaison avec ce qu'ils pouvaient faire dans leur état ordinaire. C'était vrai. C'était le maximum de leurs possibilités actuelles qui était utilisé. C'était quelque chose qui donnait une valeur à une chose qui autrement n'en avait pas du tout. Mais en admettant que vous preniez justement un génie musicien ou un génie artiste ou un génie littéraire, qui a pleinement maîtrisé son instrument, qui lui fait produire des choses au maximum de la possibilité humaine. Et vous ajoutez à ça une conscience spirituelle. La force supramentale. Alors, vous aurez quelque chose de vraiment divin. Et ça, c'est justement la clé de l'effort que Shri Aurobindo voulait qu'on fasse. Et votre corps, si vous tirez de lui toutes les possibilités qu'il contient, si vous l'éduquez par les méthodes normales, connues, scientifiques, que vous faites de cet instrument quelque chose d'aussi parfait que possible, alors, quand la vérité supramentale se manifestera dans ce corps-là, Eh bien, ça sera tout de suite, sans des siècles de préparation, un instrument merveilleux pour l'exprimer. C'est pourquoi, Sri Aurobindo répétait, il a toujours dit, il faut travailler des deux bouts. Ne lâchez pas un bout pour l'autre, et certainement, si vous voulez avoir une conscience divine, il ne faut pas lâcher l'aspiration spirituelle. Mais si vous voulez être un être divin intégral sur la terre, ayez bien soin de ne pas lâcher l'autre bout et de faire de votre corps le meilleur instrument possible. C'est une maladie de l'intelligence humaine ordinaire qui vient d'ailleurs de la séparation, de la division, qui fait que c'est toujours ou ceci ou cela. Si on choisit celle-ci, on tourne le dos à cela. Si on choisit cela, on tourne le dos à ceci. C'est une pauvreté. Il faut savoir tout prendre, tout combiner, tout synthétiser. Et alors on a une réalisation intégrale. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut nous expliquer, nous lirons ça dans les prochaines leçons. Quelque chose à dire? Il vaut beaucoup mieux faire que dire. Maintenant, je vous ai encouragé.